Et oui, chers auditeurs, Yann nous a encore fait faux bond pour une deuxième semaine consécutive.
Ah, ben,
les élections approchent, hein, donc ça nécessite plus de préparation pour les partis politiques. Fait que ces services étaient requis davantage au niveau de l'Association de comté de Québec solidaire, où il y a. Donc, c'est ça. Il est requis. Puis là, ben écoute, dans la vie, tu choisis si les activités avec tes amis nuisent à tes trucs d'association de comté, ben tu laisses tomber tes amis. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis nous autres, ben pendant ce temps-là...
Puis tes principes aussi, hein?
Oh, c'est ça, tes principes. Fait que nous autres, ben pendant ce temps-là, on continue de fomenter notre plan de takeover sur la chefferie du Parti libéral. Puis on anime le podcast pendant qu'Yann n'est pas là.
C'est exactement ça qu'il faudrait faire.
Ça serait drôle, pareil, que des gens pensent que ça vient dans leurs oreilles, puis qu'il y a vraiment... Tu sais, on apprenait qu'il y a des gens au Parti libéral qui sont comme « Hey, j'ai entendu dire qu'il y a trois clowns qui veulent prendre le contrôle du parti. »
Écoute, c'est drôle que tu dises ça, parce que, puis ça, on peut le dire aux auditeurs, là, parce que c'est rien qui est caché. En 2008, là, je reviens en arrière dans le passé comme faux, dans le temps de comment ça s'appelait? Option nationale existait encore. Donc, le parti de Jean-Martin Ossant,
qui a été
une grande réussite quand même. Quand il lançait son parti, il est resté quelques temps, mais ensuite, il a eu à démissionner parce que, je ne me souviens pas c'est quoi l'histoire, mais en gros, il y avait une course à la chefferie à Option nationale. J'étais un cocktail quand le gars a démissionné, puis j'ai fait en joke avec des amis. On devrait me lancer à la chefferie d'Option nationale. Un de mes amis qui est un gauchiste, là, ben, un gauchiste, c'est un bon gars. Je dis pas gauchiste dans le sens que je dirais comme.
Je comprends ce que tu veux dire.
C'est un gars qui est social-démocrate, puis on s'est dit que ça serait tellement drôle de faire ça. Fait que j'y ai dit, je te donne 500$, je te dis, tu vas plus de facilité à trouver 500 personnes. Qui veulent que je quitte le Québec, que 500 personnes qui veulent que je devienne chef d'un parti au Québec. Puis, il a dit, pas de problème, je vais créer un groupe Facebook. Et le groupe était rendu, mais il l'a fait sans me le dire. Puis, j'étais parti, j'avais une journée aux archives, donc j'avais pas mon téléphone. J'étais complètement isolé. Je sors des archives à 9h le soir. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Vincent Geloso pour la chefferie d'Option nationale, qui a 1500 membres, genre quelque chose comme ça. Mais apparemment, ils ont eu à changer une règle de la course à la chefferie pour éviter que ce scénario-là se produise. Oh, ça n'allait pas se produire, là. Il n'y avait aucune chance dans l'univers que je fasse de la politique, mais c'était vraiment très drôle que ça se soit passé. J'ai oublié le chiffre là, du nombre de membres, mais ça avait fait boule de neige, puis Julien était tellement content de sa shot. Julien Neveu, il était crampé que ça ait marché.
C'est en presque fait, plus drôle de penser que des gens ont cru que c'était vrai, que ça se produise pour de vrai.
Ben oui,
c'est drôle parce que les takeovers de partis par des outsiders, des gens qui ne viennent pas du parti, ça fait tout le temps paniquer les espèces d'apparatchiks qui sont là. T'sais, même au Parti québécois, quand il y a eu... La candidature de Guy Nantel, tu voyais que ça faisait pas leur affaire, alors que je veux dire, tu sais, Guy Nantel, je veux dire, à part le fait qu'il est humoriste, il n'y a rien de sulfureux chez cette personne-là. C'est un. Je veux dire, il cadrait très bien dans le modèle de ce qu'est le Parti québécois. Là. Moi, j'ai lu son livre qui est publié il y a une couple d'années, puis c'est exactement le genre de discours que tu t'attends d'un péquiste. Là.
Oh, rien de...
Mais eux autres étaient en grosse panique. Là, ah, là c'est pas sérieux. Telle affaire. C'est la preuve un peu aussi que tu dis, OK, vous autres, vous avez vraiment envie de disparaître de la map, hein, parce que vous arrivez, vous avez quelqu'un de connu qui a quand même une bonne gueule puis un bon bagou qui veut venir dans votre patente qui est en pente descendante. Puis vous autres, vous faites la fine bouche. C'est un peu spécial. Au niveau stratégie, c'est un peu spécial. Mais ouais, Vincent Geloso, chef d'Option nationale.
Ça aurait été drôle. En fait, il y aurait finalement eu un vrai souverainiste dans un parti pas souverainiste.
Oui, c'est ça, ben oui. Mais tu dis
imagine-toi si j'ajoutais la, la promesse que le premier chef d'État de la nation indépendante du Québec, c'est la reine. Ça aurait été magique.
T'aurais fait capoter ton principal opposant, parce que tu sais que celui qui était choisi à ta place, Sol, lui, est connu pour ses appels à la reine qu'il faisait. Il a appelé au téléphone au Buckingham Palace, puis il a demandé à parler à la reine d'Angleterre. Je me souviens plus ce qu'ils ont répondu, là, ou si même ça a répondu.
Je me souviens pas, mais ce gars-là, c'est aussi quelqu'un qui veut juste de l'attention. Là. C'était un cri d'attention, cette affaire-là.
Ouais. Et qu'est-ce que tu veux? Maintenant, ils ont été aspirés par Québec solidaire, ce qui était leur destin objectif, manifestement. Mais bon, écoute, c'est les dédales de la petite politique politicienne québécoise. Moi et Yann, on a parlé d'un... Là, pour les gens qui écoutent sur Patreon, ça va avoir l'air un peu en temps réel, ce qu'on dit là, mais pour les gens qui nous suivent juste sur YouTube, Spotify et autres, il y a quand même un bon décalage dans le temps, là, mais Yann et moi, on parlait un matin dans un podcast d'un texte d'Émilie Nicolas sur le monde carcéral. Là, puis bref, on a dit un peu ce qu'on pensait de tout ça. S'il y en a qui veulent retrouver le podcast, c'est le podcast qui est sorti le 7 juillet 2022. Fait que vous pourrez retourner, puisque je ne répéterai pas tout ce que moi et Yann on a dit. Mais en gros, cet article-là, qui a été publié dans Le Devoir, manquait, en tout cas, à mon avis, de rigueur, mais solidement. Là. Dans le sens que c'est des raccourcis intellectuels, un en arrière de l'autre, une mécompréhension des maths de base, même tant qu'à moi. Là, c'est assez incroyable. Puis là, ben, tu sais, je t'avais déjà fait un clin d'œil dans le podcast en disant, tu sais, moi, je la connais pas, cette fille-là, mais Vincent a déjà fait référence à elle souvent. Ouais. Puis là, tu voulais y revenir parce que dans le fond, as-tu déjà eu un débat avec elle ou je sais pas trop? Je pense que oui.
En fait, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était supposé être co-auteurs ensemble sur quelque chose. Puis, elle était tellement... En gros, c'est l'article que je parle souvent, que j'ai fait sur le français au Québec.
Ah, oh, ouais, ouais.
Puis, on était supposé co-écrire ensemble. Ça a été l'enfer d'essayer de la faire travailler. Puis, toute fois qu'elle produisait des commentaires sur le draft, c'était tellement idéologique que j'étais comme, ben oui, mais... Je veux dire, j'écrirais pas un truc genre libertarien dans un article scientifique. Là. Je m'excuse, mais OK, oui, je suis libertarien. Oui, tu peux être social-démocrate puis t'amuser avec ça, là, mais ça n'a pas d'affaire dans un article scientifique. Ça a zéro place. Ça a été vraiment pénible. Mon co-auteur puis moi, à la fin, on lui a juste demandé « Ça te dérange-tu si on continue sans toi? » Elle a été polie. Là. Elle a dit qu'elle n'avait pas de problème. On a continué sans elle parce qu'elle retardait tout le processus. Elle rendait ça plus pénible que ça avait besoin d'être. Ouais. Mais aussi, c'est une militante. Là. Il n'y a aucun doute. Elle est en croisade pour... Je ne comprends pas trop quoi.
Ben là, dans son dernier texte, c'était la bourgeoisie. En gros, je ne sais pas exactement à quelle époque qu'on est, là, mais là, en bref, c'est la croisade contre la bourgeoisie. De ce que j'ai compris, c'est un bourgeois, un juge, c'est un bourgeois. J'imagine que nous autres, on en est, là, je sais pas. Là. Je comprends pas trop exactement. Tu sais, à l'époque de Karl Marx, je comprends très bien c'est quoi un bourgeois. Il définit, c'est celui qui est propriétaire des moyens de production. Le patron de l'usine, le patron de la mine. Tu comprends, c'est des bourgeois. Puis ceux qui travaillent dedans, ben, c'est les prolétaires. Mais en 2022, un bourgeois, je sais pas c'est quoi.
Ouais. Ben en fait, ce qu'elle avait dit là, pour les auditeurs, ça vaut la peine de résumer un petit shot de plus, c'est qu'elle avait, c'est la décision là, du juge Poliquin qui a donné une suspension de sentence à un gars dont j'ai oublié le nom de famille.
Samuel Hull, je pense, quelque chose de même.
Oui, j'avais Hood ou Hull dans ma tête. Ouais, mais en gros, sur ça, elle dit ben, en gros, le système carcéral a toujours été conçu pour bénéficier, en fait, nuire aux gens des minorités et aussi pour but de protéger les gens riches des choses qui les déplaient. C'est ça, en gros, c'est vraiment ça le résumé de son argument. Puis le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y en a deux parties. Il y en a une qui est vraiment un commentaire que j'ai à faire comme économiste. Puis le deuxième que je vais faire en premier, là, c'est le fait que je ne sais jamais sur c'est quoi qu'elle critique exactement cette personne-là. Puis ça s'applique à beaucoup de gens de gauche. Parce que c'est vrai qu'il y a des injustices dans le système carcéral. C'est vrai qu'il y a des injustices dans le sens souvent que les policiers ont souvent l'air de Puis on a des études des États-Unis comme quoi que les policiers font effectivement du stéréotype racial, font effectivement parfois plus souvent usage d'abus contre certains groupes. Mais il y a beaucoup de qualificatifs à faire avec ça. Mais on peut se soucier du fait qu'en effet, plus souvent qu'autrement, tu as une plus grande proportion de gens qui sont, par exemple, de Première Nation dans le système carcéral canadien. Une fois que tu as dit ça puis que tu dis que c'est pas correct qu'un groupe qui est déjà à la marge porte le plus gros fardeau du système carcéral, c'est pas normal. Ben OK, je suis d'accord avec ça, puis j'aimerais ça avoir moins de gens en prison. Mais moins de gens en prison pour quelle raison? Est-ce que c'est juste qu'on dit qu'il n'y a plus de prison parce qu'il n'y a plus de crimes, ou il n'y a plus de prison parce qu'on ne veut plus les envoyer en prison parce qu'ils ont fait des crimes? C'est pas exactement la même chose. C'est pour ça que souvent, comme libertarien, je vais dire, ben, peut-être que tous les crimes qui sont sans victime, comme vendre des cigarettes de contrebande ou vendre des drogues douces ou vendre des drogues dures ou faire des échanges de services de travail sexuel, ça ne devrait pas être criminalisé. Donc, tu aurais probablement là une réduction de lois qui ont un effet disproportionné sur des minorités. Mais je n'en fais pas une critique du capitalisme ou de la bourgeoisie ou de quoi que ce soit, parce que c'est des concepts vacueux qui veulent dire probablement rien. Mais l'autre chose, c'est que c'est vraiment ridicule quand elle dit, bien, il y a dans la population, les gens des nations autochtones font à peine, j'oublie la proportion qu'elle mentionne, mais je pense que c'est 2,5, alors qu'ils sont trois fois plus que leur proportion dans la population à être dans le système carcéral. Donc, si c'est 2,5, ça serait comme 7,5 ou 8 dans le système carcéral. Mais juste pour le fun, là, tu vas voir, puis on va prendre le crime que, clairement, il n'y a aucun doute qu'il n'y a personne qui dirait que c'est un crime sans victime, l'homicide, right? OK? C'est assez clair?
Oui.
Il y a une victime, parce que c'est un meurtre. Si tu prends le taux d'homicide par 100 000 personnes sur toute la population au Canada, tous les genres confondus, le taux d'homicide, c'est 1,93 par 100 000 personnes. 1,96 en 2020 par 100 000 personnes.
Donc, je fais juste partager à l'écran là, pour que les gens voient la référence. C'était cet article-là. Bon, là, je l'ai déjà lu. Là, fait que, mais vous pouvez le retrouver facilement sur le site du Devoir. Là, ça s'appelle « Du féminisme carcéral ».
Oui, ben en fait, c'est à peu près la même qualité que ce qu'on pourrait lire dans…
Prends
l'équivalent de droite que eux aiment critiquer, c'est la même qualité. OK?
Mais c'est parce que le parallèle que j'ai fait ce matin, puis mon point, il était bien simple. Je disais, c'est tellement une lecture simpliste. Et d'arriver puis de dire, écoutez, je sais pas, moi, au Québec, il y a 3,5% de la population qui est noire et sont 16% en prison, donc il y a un complot contre les Noirs. Moi, je disais, c'est la même chose que de dire, écoutez, 92% des gens qui sont en prison sont des hommes, donc c'est la preuve qu'on vit dans une société matriarcale qui persécute les hommes. Là, tu te dis, oui, mais quelle est la cause? Pourquoi c'est comme ça? Les causes socio-économiques, est-ce que c'est possible que la violence et la délinquance s'expriment de manière différente chez la femme que chez l'homme? Est-ce que c'est possible que ces différences-là... Bon,
ben, c'est surtout que généralement, c'est les jeunes hommes qui se retrouvent en prison. Puis une raison très simple, c'est que les hommes ont une capacité à utiliser la violence. Donc, c'est plus facile pour eux de commettre des crimes.
Tu vois, ça, c'est un autre point. Je pourrais aller chercher selon le groupe d'âge puis dire, mais vous voyez bien que notre société a persécuté les jeunes puis est très clément. Tu peux faire dire n'importe quoi si c'est assez
avec des concepts vacueux, oui. En fait, c'est ça. C'est ça qui m'énerve un peu dans la discussion publique. Puis ça s'applique. Tu sais, je sais que vous avez ri de moi ce matin un peu sur le fait que ma générosité est rarement partagée en privé. Mais la réalité, c'est que dans les débats, il faut être généreux. En privé, tu peux te ventiler avec des amis.
Mais
j'ai trouvé ça drôle. J'ai ri tout le long quand vous disiez ça. Mais ici, je vais essayer d'être le plus généreux possible. Parce que quand tu regardes tout genre confondu, le taux d'homicide, c'est 1,96 pour toute la population. Mais par contre, quand tu regardes, puis là, tu regardes par...
Ça, c'est au Canada.
Ça, c'est au Canada, 2020. OK, donc 1,96 homicides par 100 000 personnes. Si tu divises entre Indigenous et Non-Indigenous, donc entre Première Nation, Métis et... Inuit, parce que au Canada, le niveau, c'est que toutes les Premières Nations, ça réfère à tout le monde, sauf les Métis et les peuples autochtones du Grand Nord. Et après ça, tu divises en non-indigenous. Ben, tu divises les taux. Le taux d'homicide pour toutes les gens qui ne sont pas des Premières Nations, métis ou inuit, ben, Eskimo, c'est le terme qu'on utilisait avant, c'est 1,42, donc moins que le niveau national. Mais chez les Premières Nations, métis et autres, c'est 10,05 par 100 000. C'est 10 fois plus gros que dans l'autre population. C'est gigantesque comme différentiel. Puis généralement, ça, on a aussi des données qui sont assez claires. Les crimes, très souvent, donc les homicides, disproportionnellement, c'est rare qu'ils sont intergroupes. Ils sont plus souvent qu'autrement intragroupes. Donc, c'est-à-dire que si tu regardes le taux d'homicide aux États-Unis, white on white, black on black, Asian on Asian, mais c'est la même chose au Canada. Il y a quand même une proportion non négligeable qui traverse des lignes raciales, mais généralement, c'est intra-groupe. Donc, la majorité, c'est intra-groupe. Mais même si on disait les trois quarts, okay, étaient commis par d'autres personnes contre des... dont la moitié était commis par d'autres personnes contre des indigenous, rather que indigenous on indigenous. Ben, tu serais quand même capable d'expliquer le ratio 3 pour 1 qu'elle, elle explique. C'est tout simplement que chez les Autochtones, il y a un plus grand taux d'homicide qui est commis. Ben, une fois que ça c'est dit, tu n'as pas besoin d'invoquer les bourgeois ou quoi que ce soit. Tout simplement, ce que tu peux regarder, ben, c'est quoi les déterminants socio-économiques du crime? Ben, généralement, ce qu'on voit, c'est que le niveau de revenu est un bon prédicteur. Le niveau d'isolation sociale est aussi un bon prédicteur.
L'isolation géographique, ça peut contribuer aussi là, quand tu vis dans une communauté lointaine où il y a de la pauvreté, il n'y a pas de services.
Exactement. Il y a plein de choses qui peuvent compter. Puis remarque que ça peut, ce que je viens de dire, tu n'as pas besoin d'être de gauche ou de droite pour dire ça. Tu pourrais dire qu'il faut faire plus d'investissements dans les réserves, tout comme tu pourrais dire que les réserves, qu'il faut les abolir pour qu'ils deviennent plus riches, pour qu'on puisse leur donner, ou même que tu prends la position qui est la plus libertarienne, c'est que tu leur donnes, tu leur dis tout ce que vous avez présentement, c'est votre propriété, point barre, puis vous gardez vos conseils de réserve, mais dans les réserves, vous êtes une autonomie différente, mais vous ne pouvez pas violer les droits des gens. Et après ça, vous les laissez organiser leurs droits de propriété à l'intérieur, comme si c'était des provinces. Ça serait beaucoup, serait beaucoup mieux que...
Je suis assez à l'aise avec ça. Moi,
j'ai trouvé que c'était encore mieux, parce que ça mélange le meilleur de l'autodétermination à l'intérieur de ce groupe-là. Comme ça, ils peuvent faire respecter leurs traditions, leurs coutumes. Mais en même temps aussi, tu t'enlèves les velléités du régime de propriété qu'on a imposé à partir de 1867. Tu leur laisses définir la manière qu'eux jugent les droits de propriété, comment eux veulent les définir selon les échanges qu'eux veulent catégoriser. C'est bien mieux de faire ça. Mais tu peux dire n'importe quoi comme position politique à partir du fait que tu dis que ben, la raison qu'ils sont disproportionnellement représentés, c'est parce qu'ils sont disproportionnellement ceux qui commettent des crimes. Mais alors, dans ce cas-là, c'est quoi qui fait que ces crimes-là sont commis? Ben, peut-être que ça peut être que, justement, la pauvreté, comme on mentionne, mais ça peut être aussi que l'État criminalise des choses qui sont insignifiantes chez les Autochtones, comme par exemple, on a dit tantôt, la vente de cigarettes illégales, qui est quand même une des raisons pour lesquelles ils ont le plus souvent à gérer avec les autorités. Je ne comprends pas pourquoi... Enlève les taxes sur le tabac, puis tu vas l'enlever, ce problème-là. Puis j'ai aucun problème à enlever les taxes sur le tabac.
Mais en fait, moi, tous les crimes, entre guillemets, crimes, dont la victime, victime ici est à prendre au sens très large, dont la victime est l'État, parce que tu viens le priver de revenus, là, cette fameuse phrase détestable. Tu sais, comme par exemple, tu t'as acheté de la loterie sur Internet sur un truc qui était illégal ou je sais pas quoi. That's my fucking money.
It's my money.
Ça te regarde pas. Ça ne te regarde pas si j'achète de la loterie sur Internet. C'est, ah oui, mais là, tu prives. Ou même chose que ceux, mettons, qui font venir de l'alcool de d'autres provinces. Puis ça serait plus. Tous ces trucs-là, ça devrait. Puis, tu sais, d'un, tu libères des gens qui sont devant les tribunaux pour rien. En fait, tu n'as pas d'affaire. J'ai personnellement un ami, moi, puis peut-être même il nous écoute. Il y a eu des problèmes avec la justice pour un cartoon de cigarettes de contrebande acheté sur une réserve.
Que lui a acheté comme consommateur ou que lui a vendu?
Non, qui a acheté comme consommateur.
C'est ridicule.
Et je ne vous mens pas, je pense que le montant à payer, c'était une amende de 15 000 $. Là, t'es comme, mais... Puis là, ils vont tous se cacher derrière la santé publique. Là, t'es comme, bullshit, c'est juste pour protéger votre petit segment de... Non. Votre petit système de captation de richesse, là, t'sais, arrêtez, là. Il n'y a aucune raison d'avoir ces... Non, mais bref, ça, je pense qu'on s'entend là-dessus, tout le monde. Déjà, si on réglait ces trucs-là, peut-être qu'il y en aurait moins de problèmes aussi de discrimination, parce que forcément, parce que c'en est un bon exemple, ça. Tu sais, forcément, les gens qui sont aux prises avec qui ont la justice au derrière pour des histoires de cigarettes de contrebande, on s'entend qu'ils doivent être disproportionnément autochtones, vu que c'est par les réserves que passent les cigarettes de contrebande souvent. C'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça, avec un autre nom qui est moins gentil. Mais c'est comme ça qu'on les appelle, donc c'est par là que ça passe. Fait qu'en réalité, ils sont peut-être visés plus directement par la justice pour ça, mais en raison de ce règlement débile-là, pas en raison que le système a été pensé pour nuire spécifiquement à ces gens-là. C'est juste en fait relié à la criminalisation de quelque chose qui ne devrait pas l'être.
Oui, puis écoute, puis le pire, c'est que quand les gens, on a déjà parlé de racisme systémique et de ça, puis j'avais dit, c'est comme de donner à l'idée que l'État est une créature qui pense. L'État n'est pas une créature qui pense. C'est la logique de groupe n'existe que par l'association d'individus. Puis si ce que tu dis, c'est qu'il y a un groupe de gens qui se sont organisés pour faire des politiques publiques qui les avantagent, d'accord, j'ai pas de problème avec ça. Puis ça peut être possible que peut-être que c'est un paquet de puritains qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas comment est-ce que les gens consomment de l'alcool ou comment est-ce qu'ils consomment de la cigarette ou comment est-ce qu'ils prennent des drogues, puis que c'est leur vertu morale qui doit être imposée à d'autres, puis qu'ils ont fait alliance. Puis ça, il y a un texte connu en économie, ça s'appelle « Bootleggers and Baptists ». C'est que souvent, tu as des gens qui ont des principes moraux qui veulent avancer et imposer par la loi, mais derrière, tu as des gens qui ont des intérêts pécuniers qui sont tout à fait gagnants de développer, de financer ce mouvement-là ou de l'appuyer tacitement ou directement. Donc, l'exemple du Bootlegger and Baptist est un cas connu aux États-Unis où des femmes baptistes voulaient interdire la vente d'alcool le dimanche et ceux qui étaient le plus grand défendeur qui finançaient la campagne sans le dire, c'était des bootleggers, les gens qui vendaient de l'alcool illégal parce qu'ils savaient que si les bars fermaient le dimanche, ben, ils allaient pouvoir en vendre davantage. Donc, tu sais...
C'est une histoire comme ça, avec entre autres, avec l'absinthe. Tu sais, toutes les rumeurs, là. Ouais, ben, t'as sûrement déjà entendu dire que dans l'absinthe, il y avait des trucs hallucinogènes, puis c'est pour ça que ça avait été interdit. En fait, ça, c'est des rumeurs de mémoire que, ça fait longtemps que j'ai lu là-dessus, mais il faudrait revérifier. Mais de mémoire, c'était à l'époque des compagnies qui faisaient du vin, qui avaient répandu la rumeur comme quoi cette boisson-là qui arrivait, dans le fond, contenait des trucs hallucinogènes, puis dans le fond, c'était dangereux. Mais la réalité, c'est que dans l'absinthe, il n'y a jamais eu d'herbe hallucinogène. Ça, c'est une rumeur qui est partie du... Ça a toujours été une boisson très forte en alcool. L'absinthe, en général, c'est plus de 70% d'alcool parce que si tu fais moins que 70, de mémoire, tu ne peux pas conserver le côté vert qui est issu des plantes. Ça fera un dépôt dans l'alcool.
Ça ne me surprend pas, puis le monde de l'alcool enquête. Un autre exemple qui rajoute à celle-là, je viens de t'envoyer un lien, puis ça, c'est sur, ça s'appelle War, Wine and Taxes, c'est écrit par un de mes collègues ici à GMU. Le livre, c'est l'histoire de pourquoi l'Angleterre n'a pas d'industrie du vin, malgré qu'elle en avait dans l'époque médiévale, donc elle en produisait un petit peu, mais aussi qu'elle importait des vins absolument merdiques du Portugal. Bien, ce qui se passait, c'était que l'adversaire classique de la Grande-Bretagne étant les Français étant le vin, les tarifs étaient placés contre le vin français et il y avait la justification de « on n'importe pas de l'ennemi », l'ennemi étant les Français, le régime napoléonien. Mais un des groupes qui est très favorable, les deux groupes qui sont très favorables aux tarifs sur le vin français, ce sont les brasseurs de bière, parce que ça augmente leur marché, d'une part. De deux, les producteurs portugais, qui étaient l'allié des Français, des Anglais à l'époque, contre les Français, donc pendant la guerre péninsulaire, ça s'appelle, en 1808, quand Napoléon envahit l'Espagne. Il envahit l'Espagne pour aller En fait, l'histoire, c'est qu'il veut envahir le Portugal et aider les Espagnols qui étaient les alliés des Français. Napoléon trahit les Espagnols et décide aussi d'envahir l'Espagne, de placer un de ses frères sur le trône du royaume d'Espagne. Et c'est ça qui commence la guerre péninsulaire. Mais les Portugais, qui étaient les alliés des Britanniques, eux aimaient beaucoup les tarifs des Anglais sur les Français parce que ça faisait que leur vin, qui n'était pas de très bonne qualité, pouvaient rentrer sur le marché britannique plus facilement que les vins moins chers, les vins aussi à peu près au même prix, mais de meilleure qualité que les vins portugais. Donc, tu avais des histoires qui se disaient les méchants français, mais derrière, en utilisant un cloak de moralité, right, on est britannique, on est meilleur que les Français, on est noble. En même temps, derrière, tu avais des gens qui s'en foutaient peut-être un petit peu de français versus anglais, surtout étant donné la taille des extra-profits qu'ils avaient, de limiter l'entrée de produits moins chers sur le marché britannique. Fait que, tu sais, des histoires comme ça, ça arrive souvent que tu as des groupes qui vont capturer l'État pour l'avantager. Pour revenir à Émilie Nicolas, je peux avoir des exemples comme ça d'un paquet de politiques publiques qui sont créées pas parce qu'il y a un groupe méchant qui s'est assis dans une salle, d'avoir une logique de complotisme. Je peux imaginer que ça émerge de manière spontanée après l'action de plusieurs groupes d'intérêts qui négocient avec les politiciens sur le marché politique pour arriver à un arrangement qui les satisfait. Puis ça fait que certaines personnes dans le processus se font fourrer. Puis ça arrive. Puis de le dire, c'est pas faux. De dire qu'il y a des groupes à la marge de la société qui souffrent par les arrangements actuels, c'est correct. De là à prétendre que c'est un plan, puis d'avoir le langage des classes sociales, pour moi, là, ce genre de holisme, d'idée que les groupes pensent, c'est vraiment l'épitome d'être un illettré. C'est-à-dire que tu as juste lu des textes sophistiqués, mais tu les as pas compris, puis tu n'as pas aucune profondeur analytique. Fait que c'est comme un illettré analytique, c'est comme ça que je devrais le dire.
C'est une forme, en fait, d'animisme politique. Tu sais, c'est ça le problème que j'ai avec la logique systémique comme ça, c'est que si au moins ils nous disaient « Bon, ben voici, le système est comme ça, et je vais vous dire qui l'a pensé pour qu'il soit comme ça. » Mais c'est jamais le cas, c'est toujours le système, la société. Là, tu te dis « OK, mais si c'est vrai, là, que les juges, en réalité, ils n'ont pas vraiment de libre arbitre et ils sont là pour appliquer une vision de la justice qui est à la fois. Ce système-là, il a été pensé, théorisé, amené de l'avant, défendu par des gens. Il ne peut pas être arrivé comme ça, descendu de l'espace. Les concepts, là, on n'est pas dans le monde des idées. Là. Les concepts, ils ne volent pas avec des ailes comme ça. Il y a des gens qui les ont incarnés. Puis c'est comme si je te disais, à l'Assemblée nationale, il y a une culture de boys club. Là, tu vas me dire, OK, parfait. Mais c'est qui, ça? Et si on analyse et on trouve que cette réalité-là existe, on va pouvoir identifier des gens. OK, ces gens-là ont des comportements déplacés envers les femmes. On en a identifié 10 sur 125 ou 20 sur 125. Eux font ça et c'est de eux dont tu parles. Même chose avec l'histoire du racisme systémique. Là, à chaque fois que tu parles de ça aux gens, ils finissent, tu sais, quand ils défendent ça, ils disent « Ah, mais là, on parle... » Non, non, mais je le sais que la plupart des gens ne le sont pas, puis que c'est comme des exceptions. Toujours... Mais c'est le système. Là, tu es là, oui, mais c'est quoi ça? Le système n'existe que parce qu'il y a des gens qui l'incarnent, le représentent, sont là. Tu sais, ça n'existe pas en soi comme tel. Il n'y a pas d'existence intrinsèque à ce système-là qui est là au-dessus de tout le monde. Puis il n'a ni visage, ni peau, ni... Tu sais, ben non, mais ça n'existe pas, ça.
Ben écoute, je ne sais pas si tu connais ça, mais ça s'appelle Mott and Bailey. C'est une stratégie argumentative où il y a deux positions. En fait, pour qu'une position soit défendable, elle doit toujours avoir un once de vérité. Right? Que tu peux, ça n'aurait pas levé l'idée de racisme systémique s'il n'y avait pas un fond de vérité sur lequel elle pouvait s'appuyer. L'idée, effectivement, qu'il y a l'air d'avoir des groupes qui ont systématiquement, et là, quand je dis systématiquement, je veux dire de manière statistique, c'est-à-dire que quand tu regardes la distribution, elle est systématiquement différente de celle de l'autre. Donc, tu ne peux pas l'allouer à des facteurs, tu ne peux pas allouer l'explication à des facteurs aléatoires. C'est vraiment quelque chose qui est persistant.
Je pense que l'idée pour laquelle que c'est... comment je pourrais dire ça? La raison pour laquelle on accorde peut-être de l'importance ou un fond de véracité à ça, c'est que ça a déjà existé. Dans le sens que du racisme...
Ça persiste.
Ou ça persiste. Mais tu sais, mettons, tout le monde convient que le racisme systémique a existé dans le Troisième Reich.
Oui. Mais là, d'ailleurs, il y a une grosse différence dans ce que tu viens de dire. Là, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont écrit des lois qu'on peut identifier, qu'il y a des gens qui ont poussé pour ces lois-là qu'on peut identifier. Mais la différence, c'est que eux, ce qu'ils parlent, quand ils parlent à l'intérieur de sociétés libérales, c'est qu'ils ont l'air de dire qu'il y a un système inconscient. Puis c'est là que ça devient difficile à défendre. Puis que lui, mais en fait, que le système, il a généré ce résultat-là de manière consciente.
Ouais, mais sans qu'il y ait de traces de loi, sans qu'il y ait de tu sais, parce que... Puis à la limite, moi, je suis prêt à reconnaître que, mettons, à l'échelle canadienne, la loi sur les Indiens, moi, à mon avis, c'est une forme de racisme systémique.
Ouais,
au sens où c'est écrit dans une loi que des individus, sur la base de leur sang, ont un statut légal différent des autres. Ça, je suis prêt à le reconnaître, c'est écrit.
Même chose avec les lois sur l'immigration. Ou la loi 101.
Exactement. Non, mais là, la phase, c'est qu'on touche quelque chose. Tu as une loi, tu as des dispositifs, tu as des amendements, tu as une trace législative. Mais là, si tu commences à me dire, ah ouais, mais non, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement, c'est juste une culture. Là, attends, on commence à être dans l'intangible.
Oh oui, mais le pire, c'est que notre explication à nous est super facile à avancer, premièrement parce que ça ne nécessite pas un plan. Tu peux dire qu'une intervention X désirée par un groupe A, donc disons des gens qui sont conservateurs sociaux, votent pour des politiques publiques qui sont plus fortes sur le enforcement de la guerre, la mise en place de la guerre contre la drogue. Okay? Mmh. Leur intention, ce n'est pas de nuire à un groupe en particulier, mais par corrélation socio-économique, il y a un groupe particulier qui est à la marge de la société qui s'implique davantage dans ce commerce-là que l'État vient de rendre illicite et illégal. Dans un tel cas, ce n'est pas l'intention de certaines personnes de nuire à ce groupe, au groupe qui est affecté par la guerre contre la drogue, mais le résultat est là. Le racisme systémique va se fonder sur l'idée que les différences de résultats, de outcomes entre les groupes, c'est le résultat d'un plan conscient par une culture dominante ou par des gens qui ont de l'influence dans la société, alors que notre explication à nous peut permettre ça, mais dans un tel cas, on peut l'identifier quand il y a force de loi, quand il y a des législateurs qui directement décident que groupe X n'a pas le droit de faire A pour des raisons raciales. Mais là, on peut dire clairement que là, il y a vraiment un acte délibéré de créer un environnement législatif. Mais il y a aussi, après ça, des résultats qui sont des conséquences inattendues de certaines choses. Par exemple, le salaire minimum. Le salaire minimum, quand tu regardes l'élasticité du travail, est plus forte chez les femmes et chez les gens des minorités raciales. Les gens qui veulent augmenter le salaire minimum, je te garantis qu'ils ne le font pas pour des raisons racistes. Il n'y a personne qui défend l'augmentation du salaire minimum qui se dit « c'est correct parce que c'est… » En fait, à l'origine… si tu lis l'histoire du salaire minimum, il y en avait qui disaient que c'était une bonne chose, que ça allait expulser les Noirs du marché du travail. Ils disaient vraiment explicitement
les Noirs et les Asiatiques. Comme les règlements sur les armes et ce genre de trucs-là.
Oui, bien en fait, on oublie aussi ça. Là, ouais. On peut en parler longtemps sur ça, là, que beaucoup de lois contre le contrôle des armes à feu. En fait, non, gardons ça de côté parce qu'on peut
sidetracker. On pourrait déraper, là, mais effectivement,
ouais.
C'est…
Ouais, mais
ça peut être un side, mais je comprends ton point. C'est un peu comme dire, mettons, je sais pas, moi, pendant telle décennie, le gouvernement a mené avec les forces policières une lutte acharnée contre la mafia, mettons. Puis là, quelqu'un arriverait à dire, ouais, mais là, ça a été de la discrimination systémique envers les Italiens. Là, parce que regarde, il était 1% de la population, mettons, puis tous les chefs mafieux qui sont en prison, c'est des Italiens. Là, tu dis, ouais, mais c'est un effet collatéral, mais le but de la manœuvre, c'était pas de viser une communauté ethnique en particulier. Puis là, on pourrait dire la même chose, ouais, mettons. Quand il y a eu la guerre aux motards, on a sûrement fait rentrer en prison beaucoup de gens qui était innocent, puis
Mais tu sais, c'est un bon exemple aussi, parce que si, mettons, l'État dit les vrais criminels, c'est les Italiens, puis il décide de s'attaquer à ça, mais qu'il en fait une campagne de publicité, bien, il pourrait avoir une sorte d'ombrage culturel qui persiste parce que tu as stigmatisé un groupe. Mais là, ici, je peux trouver l'origine de ça. l'État a créé une stigmate sur être membre de ce groupe-là. Ben, puis c'était pas correct. C'était pas correct de faire ça, de dire de cibler ce groupe-là en général, parce que des éléments, un sous-groupe dans ce groupe-là commettaient des actes violents. Puis tu as dit, tous les Italiens, c'est des violents. Tous les Italiens, c'est les WAP, les frites, peu importe comment est-ce qu'on les appelait. Puis tu sais, je veux dire, j'ai grandi dans la communauté italienne, j'ai entendu les termes dérogatoires qui sont donnés. Mais ça, encore une fois, on peut identifier la chose et on peut le voir comme un ombrage qui continue, que des comportements sont inélastiques, qui sont plus longs à changer. Puis ça fit dans la logique économique. Je n'ai pas besoin d'invoquer des concepts vacueux. Je peux modéliser ça simplement. Et non seulement ça, mais je peux faire une affirmation que tu peux prendre, collecter des données et essayer de falsifier, ce qui est l'épitome d'être un bon scientifique. Puis je pourrais avoir tort, je pourrais dire que peut-être la stigmate est importante ou n'était pas importante. Mais l'affaire de tous les racistes, de tous ceux qui parlent de racisme systémique, c'est qu'ils ont une idée qui est quand même, qui part toujours sur un mini fond de vérité, qu'il y a des différences systématiques entre certains groupes qui ont l'air de persister à travers le temps. Et là, à partir de ça, là, c'est là qu'ils vont trop loin. Ils vont imputer des explications vacueuses qu'on donne, qu'on explique maintenant. Mais ce qui est vraiment malhonnête, généralement, avec des gens comme ça, puis il y en a à droite qui font ça aussi, c'est juste ce qu'ils font sur d'autres terrains, c'est la stratégie Mott and Bailey. La position qui est défendable, Mott and Bailey, c'est que tu t'imagines un village qui a juste autour du village une petite palissade, puis un fossé autour, puis tu as une position dans le village qui est une citadelle, qui est beaucoup plus facile à défendre. Bien, quand tu es attaqué la première fois, tu te replies dans la citadelle, qui est la position vraiment défendable, qu'il y a des différences entre les groupes qui ont l'air de persister à travers le temps et elles sont répréhensibles. Fair enough. Ouais. Very defensible position. Il n'y a personne qui va s'ostiner. Mais là, la minute que tu as fini de t'attaquer puis que là, tu veux essayer d'avancer, tu te retournes à l'autre position qui est moins défendable. Puis là, tu dis quelque chose comme... Puis ça, c'est parce qu'il y a une culture de ça.
Ouais, où il y a un privilège blanc ou je ne sais pas quoi.
Puis là, quand on push back contre cette partie-là de l'argument, tu retournes vers la sadelle et tu dis, est-ce que tu es en train de dire que ces différences-là ne comptent pas? Est-ce que tu es une méchante personne? Tu peux pas changer les goalposts comme ça. Tu n'as pas le droit de changer les lignes de démarcation de même. Mais ça, c'est une stratégie argumentative. Puis au Québec, la personne qui la maîtrise le mieux, c'est à gauche. Puis à droite, je te dirais que il y en a un que j'ai en tête qui fait ça souvent, là, que j'ai commencé à remarquer qu'il fait ça de temps en temps. Mais à gauche, c'est Nicolas qui fait ça le plus souvent. Ce que je dis, c'est la position qui est raisonnable. Puis dès qu'elle se fait plus critiquer, elle retourne à la position déraisonnable qui montre une malhonnêteté intellectuelle dans la conversation.
Oui. Et en plus, dans la force, c'est que dans la logique systémique où... les inégalités qui sont observées, mettons dans la réalité, ou les injustices qui sont observées, ne sont pas le fruit de l'action des gens motivés par des lois ou des règlements ou des dispositifs précis, mais sont un peu l'expression d'un genre de truc inconscient, l'imaginaire collectif, ce genre de truc-là. Ben, après, en fait, ce que ça leur permet, c'est ça leur permet de faire de ça comme une lutte permanente sans réelle solution tangible. Parce que, tu sais, moi, mon explication, c'est que tu peux identifier... Si problème il y a, le problème, tu peux l'identifier, soit une loi, soit un groupe de personnes qui fait des pressions, soit un règlement, soit quelque chose de précis. Et ça implique aussi, par extension, que tu peux régler le problème avec quelque chose de précis en t'attaquant. Tu sais, mettons, la loi sur les Indiens. Bon, ben là, j'ai ciblé une loi qui met sur un pied d'inégalité des citoyens basés sur le sang. La solution à ça, je ne sais pas c'est quoi précisément, mais fort à parier qu'elle passe par la modification ou l'abolition de cette loi-là. Donc, j'ai ciblé une action précise. Mais si je commence à dire « Ah, c'est la culture, puis c'est l'ambiance, il règne un climat de... » Quelle est la solution? La solution, ça passe par... Ça passe par quoi? Ça passe par pelleter du vent comme ça jusqu'à temps que... C'est quoi la solution? Je comprends pas quelle est la solution, en fait. La solution, ouais, c'est de rééduquer tout le monde. C'est quoi, là?
Ben en fait, ce qui est vraiment gossant, c'est qu'avec ça, il y a toujours l'espèce de fond de que les gens ne sont pas rationnels. Puis ça, ça m'énerve tellement, là. C'est comme l'idée qu'un groupe va toujours être proie au raisonnement qu'il a comme groupe. Alors que ça fait zéro sens. Premièrement, si tu penses ça, on a dit ça des Québécois pendant des centaines d'années, que les Québécois étaient nés pour un petit pain, qu'ils avaient une mentalité de petits entrepreneurs, que c'était des gens qui n'avaient pas d'ambition économique. Puis c'est pour ça qu'ils sont plus pauvres, c'est que c'était leur propre faute. Ça, ça a été une explication. Tu lis les livres, là, puis c'était jusqu'aux années 80. Puis encore des gens qui le disent aujourd'hui. Tu as Gérard Bouchard, qui est vraiment le pire dans cette liste-là, qui parle de... Ils avaient des objectifs différents. Contrairement aux Anglais qui, eux, voulaient maximiser la richesse, les Canadiens français voulaient maximiser la transmission intergénérationnelle. Whatever the fuck that means. Parce que
ouais, c'est ça, c'est quoi cette bullshit-là?
Non, non, mais ça, c'est le livre, c'est Quelques arpents d'Amérique, qui est une histoire économique, mais qui est basée sur des données quand même assez riches sur le Saguenay, mais avec une explication totalement vacueuse qui fait pas de sens. Puis qu'en fait, quand tu regardes les différences, généralement, en fait, ce qui détermine les différences entre anglophones et francophones au Québec, il y avait deux choses. C'était le coût de l'éducation et le coût de l'information sur les nouvelles pratiques. Mais en réalité, quand tu voyais des sous-groupes, quand tu étudiais, genre, des gens qui s'observaient entre eux facilement, les francophones performaient aussi bien que les anglophones dans des contextes où est-ce que tu peux garder toutes choses étant égales par ailleurs. Il n'y avait pas de différences socio-économiques, il y avait des différences culturelles, mais ça n'avait pas l'air de se traduire dans des différences économiques. Comme par exemple, les francophones qui vivaient dans les cantons, qui ne vivaient pas dans le régime seigneurial, étaient plus riches que les francophones qui vivaient dans le régime seigneurial et étaient aussi riches que les anglophones qui vivaient dans le régime non seigneurial. Donc là, tu vois que, en fait, c'est le rôle d'une institution. Puis généralement, le rôle des institutions, le rôle de l'État explique une grosse partie. Je ne pense pas qu'il explique tout, parce que je suis prêt à croire que si, disons, pendant, aux États-Unis, ça se voit, l'histoire, le leg psychologique qu'a l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation, alors qu'il y a des gens qui ont vécu la ségrégation, qui sont encore en vie aujourd'hui, hein, by the way, je peux imaginer que ça te laisse un certain cadre de référence et donc que des mauvaises lois vont avoir comme une petite persistance à travers l'histoire, dans le sens qu'il y a des gens qui vont garder des attitudes. Pas tout le monde, mais il y en a quelques-uns qui vont les garder, ou peut-être une minorité appréciable, ou peut-être même une majorité. Mais l'idée, c'est que tu ne changeras jamais des comportements discriminatoires avant d'avoir enlevé des lois discriminatoires.
Ben non, mais c'est ça. Et oui, puis avant d'avoir identifié le problème réel aussi. Et moi, ce qui me gosse un peu dans tout ça, puis c'est un peu ce que tu viens de dire, mais en d'autres mots, là, c'est que à la fois la logique raciste, si on pourrait l'appeler comme ça, et la logique antiraciste fonctionne un peu sur la même matrice idéologique, c'est d'enfermer l'individu dans son appartenance au groupe.
Ouais.
Donc, le raciste, lui, regarde... parce qu'en fait, le texte de Nicolas, là, d'Émilie Nicolas, le raciste, lui, il regarde ça, puis qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, ben, ça a preuve là, que ça n'en prend pas de noir puis de je sais pas trop quoi au Québec. Regarde, ils remplissent les prisons. Puis, tu sais, c'est la preuve qu'ils sont intrinsèquement liés de même. Donc, dans le fond, eux, ils voient des appartenances religieuses, ethniques, culturelles, et ils enferment les individus dans ces appartenances-là. Donc, t'es comme ça parce que t'es noir, t'es comme ça parce que t'es blanc, t'es comme ça parce que t'es asiatique, ou peu importe, musulman, whatever le déterminisme qu'on prend. Et de l'autre côté, on fait un petit peu la même chose dans le sens que, ben si vous pensez comme ça, c'est parce que vous faites partie d'une société que, puis vous êtes blanc, donc t'es là. Et là, c'est tout le temps, puis c'était un peu le propos, tu sais, c'était le juge, en réalité, il pense qu'il a fait un jugement qui est relié à sa propre analyse rationnelle de la cause qui est devant lui, mais en réalité, si on pousse plus loin, il fait juste appliquer la logique bourgeoise. Là, t'es comme, OK, fait que dans le fond, le juge, il a bien beau avoir été...
C'est pas une explication, ça. J'ai une explication plus simple. Le juge pourrait être juste un imbécile. Une explication vraiment simple. Ça arrive des gens qui sont épais. Ça arrive peut-être aussi que Le juge n'a pas fait sa job. Il n'a pas lu le dossier. J'en connais des gens qui m'ont conté des histoires de juges qui se sont juste présentés puis qui ont jugé sur feeling.
C'est-tu possible? C'est l'inverse, oui. Aussi, l'inverse aussi est possible, dans le sens que tout le monde qui commente cette histoire-là en ce moment, moi, je vais être honnête, je l'ai vu comme tout le monde, l'histoire. Je ne connais pas les détails de la chose. Je n'ai pas été lire le jugement. Et mon feeling, c'est que beaucoup de gens qui commentent, dont cette dame-là qui a écrit le texte, en sait probablement pas beaucoup plus que moi sur ce qui s'est passé dans la salle de cours et des détails qui ont été amenés. Je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est mauvais, c'est pas ça le point. C'est que beaucoup de gens réagissent à des trucs et tu te dis, ouais, mais vous n'avez aucune...
Écoute, il y a un truc, je vais t'envoyer un lien là, pour que tout le monde comprenne. Je suis pas avocat. Donc, je le sais pas, mais il y a un groupe d'experts à qui je peux me remettre qu'ils vont réviser cette décision-là maintenant qu'elle est dans la place publique. Je comprends qu'il y a un malaise et le groupe, ça s'appelle le Conseil de la magistrature. Le Conseil de la magistrature, sa job principale, c'est de juger le comportement des juges et de faire du training. Une décision merdique peut être amenée en discussion au Conseil de la magistrature. Donc, présentement, là, je te dirais que ça, c'est un des meilleurs moments pour un groupe de gens qui ont une connaissance du domaine, des procédures judiciaires, des procédures criminelles, du cadre du code criminel dans toutes ses nuances, dans toutes ses importances, et qui sont capables de faire une évaluation de la décision du juge Poliquin. Ce n'est pas un chroniqueur dans le devoir, ce n'est pas toi et moi qui vont déterminer si oui ou non la décision était bonne. À première vue, de ce que je vois là, je suis pas mal sûr que le conseil de la... Je suis prêt à mettre 100$ que le conseil de la magistrature va punir le gars. Je suis vraiment convaincu qu'il va avoir une forme de punition. Mmh. Parce que dans les autres provinces, il y en a. Et ma conjointe étant avocate, elle m'a compté plusieurs fois, parce qu'il y a des cours d'éthique du droit, le nombre d'exemples qu'elle m'a discuté où est-ce qu'il y avait un juge qui était assujetti à un exemple en déontologie ou en éthique professionnelle qui était mentionné, que c'était le juge qui avait un mauvais comportement. Un Alberta, en fait, qui était super connu il y a quelques années, qui avait fait des commentaires super sexistes, puis je pense qu'il avait même été radié du barreau de l'Alberta à cause de ses propos hyper sexistes. Puis il avait dit quelque chose du genre, le classique, là, vraiment sexiste, de « ben, elle s'était habillée pour le demander, ça ». Puis c'était vraiment, il avait dit ça sur le bench, tu sais, comme pas une joke dans un bar, il avait dit ça alors qu'il siégeait.
Mais écoute, c'est pas parce que t'as fait ton droit que t'es devenu avocat puis que t'es juge que tu peux pas manquer de jugement à l'occasion, voire souvent. Là,
mais tu sais, pour clarifier, là, nous, ce qu'on critique, toi puis moi, présentement, c'est pas si le gars, c'est un crotté. Je pense qu'on est pas mal d'accord que Hull, c'est clairement un crotté. Là. Il a admis, en fait. Il a admis qu'il avait agressé deux personnes. Donc, dans la définition du livre, c'est un crotté puis il y a une punition qui devrait venir. Maintenant, la question, c'est est-ce que le juge a fait ça conformément à la loi, puis il y a une procédure à suivre, puis la procédure fait en sorte qu'on a l'importance qu'on a reçu, non seulement que c'est mieux de donner un bon jugement, d'éviter de donner un mauvais jugement par procédure, de jamais mettre, c'est mieux de laisser des criminels s'en aller que de mettre des innocents en prison.
Parce que tu sais,
attends, je veux juste finir, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment pas une défense du gars. Là. Il y a zéro défense du gars dans ce qu'on fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est l'explication qui est donnée pour l'explication du juge, du comportement du juge, est de la bullshit. Right? Parce que moi, j'en ai une explication bien simple, puis c'est Occam's Razor. C'est possible qu'il soit juste un mauvais juge. Ça arrive. Qu'il soit juste
incompétent. Oui, il y en a qui en échappent.
J'ai pas besoin d'une explication plus scientifique que ça. L'incompétence n'est pas un facteur inconnu à la race humaine.
Ben, c'est un peu ce que je disais ce matin quand j'en parlais, puis je disais, écoutez, à chaque fois que je lis les journaux et qu'on me parle de quelqu'un qui a... Là, tu vois, dans le journal, il a poignardé telle personne, il a mis telle fille en proxénétisme, il a été proxénète. À chaque fois que tu lis le truc, tu vois des statements du genre, il avait déjà comparu devant le juge l'année dernière pour telle affaire. Puis là, tu te dis, ben, quelque part, il y a des gens là-dedans qui ont manqué de jugement, dans le sens qu'ils n'ont pas vu que cette personne-là, c'était peut-être pas l'idée du siècle d'y donner encore et encore une autre chance. Au même titre que des gens qui sont multirécidivistes de l'alcool au volant, tu te dis comment ça se fait que ça fait 8 fois que la personne pète la balloune, puis là, il vient d'écraser quelqu'un. C'est parce qu'il y a quelqu'un dans le système de justice qui a mené donner une deuxième chance à cette personne-là, puis une troisième, puis une quatrième. Ça aussi, ça en est des manques de jugement. Donc, ça doit exister tout le temps. Puis, honnêtement, la justice, c'est probablement un des domaines que les gens, que plusieurs personnes vont avoir, sur lequel plusieurs personnes vont avoir un jugement très sévère en connaissant très peu d'éléments. Je me souviens, il y a quelques années, dans le cadre d'un des procès qui avait fait beaucoup parler au Canada, c'était le procès de Yann Gomeshi.
Je savais que tu t'en allais là.
Et t'avais les trois, c'était trois filles de mémoire qui le traînaient devant justice pour, bon, il y avait des histoires un peu BDSM au travers, là, bref. Des trucs très douteux. Et quand le procès s'est terminé, t'avais deux gangs de personnes. T'avais une gang qui disait, bon, ben parfait, la justice était faite, les filles disaient n'importe quoi, puis tout. Puis de l'autre côté, t'avais plein de gens, ils n'ont jamais lu le dossier, ils ne connaissent rien au procès. Et là, c'était, ils criaient au scandale, on laissait un agresseur sexuel en liberté. Puis là, tu dis, mais avez-vous suivi l'histoire? Étiez-vous là? Avez-vous pris connaissance des témoignages?
Et sais-tu, moi, je vais toujours me souvenir parce que j'ai écouté l'entrevue avec l'avocate de Gomeshi, Mary Hanlon, qui était une personne absolument calme, très relaxe et qui était, tu sais, tu vois que, tu sais, il y a des gens qui sont exceptionnels dans chaque cohorte pour un esprit absolument, tu sais, la capacité de livrer des explications, mais d'être imperturbable devant la critique, mais d'être capable, tu sais, d'incorporer de nouvelles informations. C'est des êtres humains vraiment exceptionnels qui sont capables de faire ça. Puis elle, quand elle se faisait interviewer par Peter Mansbridge, je pense, il demande, est-ce que vous regrettez quelque chose que vous... En fait, il essayait de se faire dire si elle trouvait que son client était coupable. Puis elle disait, dans le système de justice, il y a des principes. Il y a des principes que la procédure est aussi importante que le résultat. Et elle parle tout à fait calmement. Et elle dit, ce n'est pas à moi de faire ça. Ma job, c'est de produire un rôle, une fonction essentielle de protéger, tant pour mon client, mais pour des personnes futures, contre des cas qui sont mal construits ou dans lesquels le procureur pourrait faire un travail plus sloppy ou être sujet à pression. Elle dit, mon travail, c'est de défendre les gens, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, ça ne change rien à ma manière de faire mon travail. Puis tu voyais que je suis sûr qu'elle pourrait se dire qu'elle ne passerait pas après que le gars est accusé, après que le gars était innocenté. Je suis sûr qu'elle ne voudrait pas passer de temps avec lui. Mais à un moment donné, la procédure compte. Là, ce qu'on sait de la cause, c'est que les trois femmes avaient fait collusion sur leur témoignage. Ce qui est clairement, clairement problématique sur tous les comptes de procédure. Même pour un non-initié, c'est clair qu'il y a un problème. Mm-hmm. Et c'est sur cette base-là qu'elle a réussi à jeter un doute raisonnable. Maintenant, est-ce que ça veut dire, tu sais, que le gars était innocent? Je ne suis pas mal sûr. Écoute, doute raisonnable ou raison probable de croire, c'est pas le même standard. Raison probable de croire que c'est effectivement un tabarnak de creep. Mais le standard qu'on impose pour administrer des punitions est plus élevé. Et malheureusement, ça veut dire que des fois, il y a des résultats déplaisants. Est-ce que j'aimerais que ça n'existe pas? Oui. Est-ce que j'aimerais qu'on ait un meilleur système? Oui. Est-ce qu'il en existe un? Ben, c'est à toi de le proposer parce que moi, j'en vois pas présentement d'alternative qui mènerait pas peut-être à des injustices éventuelles qui sont tout aussi problématiques que l'injustice de ne pas punir ou sinon plus.
C'est parce que tu regardes l'alternative qui est proposée, puis en gros, ce que tu comprends, c'est l'alternative, c'est le tribunal populaire, c'est les plumes et le goudron, c'est pas de procès, les gens sont coupables du moment qu'il y a un appel. Tu te dis, OK, mais c'est parce que j'espère que vous croyez très profondément ne jamais avoir rien fait qui pourrait vous être reproché, parce que sinon, ça peut mal se terminer. Tu sais, c'est un peu comme dire, dans le fond, on va administrer aux gens la peine de mort sans procès, sans rien, sous la base de, ben, l'autre personne a dit qu'il a fait ça. Tu sais, tu te dis, attendez, là, la justice, c'est pas ça.
Puis non seulement ça, mais c'est un point que moi, je défends. J'ai pas de problème à l'ostracisation. Les gens... la fonction évolutionnaire, il y a un article super connu en psychologie évolutionnaire, je vais te l'envoyer. C'est comment est-ce que l'ostracisation fait partie, est un truc tout à fait normal qu'on fait depuis des millénaires et qu'il y a une raison qu'on le fait parce que ça sert une fonction, là, ça sert une fonction. Puis, si, mettons, tu as quelqu'un qui... attends, je viens de te l'envoyer. Je viens de le trouver, je te l'envoie. L'idée que... si moi, je veux dire, le système de justice ne va pas envoyer ce gars-là en prison, mais si on est pas mal tous sûrs que la probabilité qu'il ait fait ça est vraiment là, ben c'est correct pour le reste de la société civile de refuser d'embaucher cette personne-là, de lui imposer des pénalités par d'autres mécanismes. Et le fait qu'il existe tous ces mécanismes de gouvernance, parce que tu ne peux pas t'attendre à ce que toute la gouvernance sur nos mauvais comportements soit produit uniquement par des policiers et uniquement par des cours de justice, tu dois avoir d'autres mécanismes. Mais tu devrais interdire certaines formes d'activité aux autres mécanismes, comme par exemple les autres mécanismes. Donc, j'ai peut-être le droit de refuser d'écouter cette personne-là, de l'embaucher, d'acheter ses affaires, que je peux encourager au boycott de ses produits. Mais tant et aussi longtemps que je ne lui commets pas violence directe, ou diffamation, donc que je mens à son égard, tant que je ne fais pas l'une de ces deux choses-là, je suis en train de m'occuper d'un mécanisme de gestion du comportement social qui est, qui est efficace, qui est acceptable, qui a une nature en biologie quand même. Donc, on fait ça depuis des millénaires, puis des millénaires, des dizaines, des centaines de millénaires. Donc, depuis très longtemps, depuis que l'être humain est humain, on fait ça. Mais une fois que c'est... Tu compares ça avec le système de justice, tant que tu ne fais pas la violence, puis que tu laisses la violence, la coercition, la punition par perte de liberté, tu laisses ça à l'État, fine. Right? Puis, ce serait tout à fait possible pour les gens qui déchiraient leur chemise, c'est pas correct, de dire, ben arrangez-vous pour que CBC ne l'embauche plus jamais, puis que vous boycottez ses produits. Puis à un moment donné, le coût de vivre en société, des fois, c'est qu'il faut que tu, critiques des racistes, puis il faut que tu penses un petit peu d'énergie à critiquer des sexistes, puis à dépenser un peu d'énergie à t'informer. Je le sais que c'est plate d'être un citoyen, puis que ça faut que tu fasses un petit peu de travail puis de responsabilité, mais la réalité, c'est que ça fait partie de la game, puis c'est bien mieux de s'occuper de cette partie-là de ta responsabilité en société que de déléguer des choses à l'État qui, lui, pourrait faire des dommages moraux plus grands lorsqu'il abuse de ce pouvoir-là que tu viens de lui concéder. C'est pour ça que je dis garde-le à son minimum essentiel.
Bien, c'est pour ça aussi que je pense que c'est important là, ce que tu viens de dire. Puis la stigmatisation, l'ostracisation, là, dépendamment de comment on le traduit, là, mais c'est un peu ça. Ça peut être acceptable dans une société, dans le sens que tu viens de le dire, mais pour autant que ce soit appliqué sur l'individu, pour revenir un peu au sujet dont on a parlé avant, et non à l'individu pour son appartenance au groupe. C'est là qu'est toute la différence, parce que tout ce qui est dénoncé dans la société, c'est, OK, mettons, lui, là, je ne fais plus affaire avec lui parce que, bon, il s'est fait acquitter en cours, là, mais tout le monde a compris que c'est un crotté qui abusait des femmes. Là. OK, parfait. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui conviendrait que ce n'est pas moralement, ou en tout cas que je ne suis pas justifié de le faire. Par contre, si je fais ça à un individu en me disant, ah, oh, ben, de toute façon, lui, de toute façon, les Italiens, c'est pas du monde fiable, fait que moi, j'engage pas ça. T'sais, là, tout le monde a compris que tu discrimines quelqu'un ou tu ostracises quelqu'un, non par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à son appartenance au groupe.
C'est drôle parce que. Ce qui est moralement inacceptable.
Ce qui est moralement inacceptable. C'est pour ça que je finissais de lire un livre de l'explorateur Mike Horn. Et il parle dedans, à un moment donné, parce que lui, c'est un Sud-Africain qui était élevé à l'époque de l'apartheid, puis tout ça, puis il disait, nous autres, on vivait en région, puis pour nous, là-bas, ça existait plus ou moins. À l'école, j'allais avec des gens de couleur noire, il y avait des blancs, il y avait des noirs, j'ai fait l'armée vers la fin de l'adolescence avec des gens noirs, puis pour nous, c'était pas vraiment une réalité là-bas. Il dit, j'ai appris qu'on vivait dans ce système-là en sortant de chez nous, Et comment je l'ai appris, c'est, il disait, quand il est parti de l'Afrique du Sud, il y avait juste trois endroits dans le monde où les Africains du Sud avaient le droit d'aller à cause qu'il y avait des sanctions économiques. Tout ça, il y avait la Suisse, le Royaume-Uni et Taïwan, quelque chose comme ça. Et là, il dit, ben, là, j'ai vu le premier vol d'avion était pour Zurich, fait que j'ai décidé de m'en aller en Suisse. Mais là, rendu en Suisse, la vie était épouvantable parce que personne ne voulait y parler. Aussitôt qu'il disait qu'il était africain du Sud, les gens ne voulaient pas y parler, les gens le traitaient de raciste, les gens disaient... Puis il était comme, ben, je suis parti de chez moi parce que je ne voulais plus vivre là-bas.
Avec ce système-là.
Avec ce système-là, je voulais refaire une nouvelle vie, je voulais faire autre chose. Mais dans le fond, lui, il était jugé par rapport à l'appartenance à sa communauté, mais pas en tant qu'individu. T'sais, personne n'avait envie de savoir si lui, dans sa vie personnelle, il avait... Il cautionnait ce type de truc-là, un peu comme l'histoire des le pianiste russe cancellé par l'orchestre symphonique. Puis là, t'es comme, moi, ce genre de conneries-là, là, ça me fait tilter. Puis tout ça se rapporte un peu à ce qu'on parle depuis le début, c'est la négation de l'individu. T'sais, cette personne-là, qui elle est? Là? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? C'est quoi les, ses faits et gestes? Est-ce qu'elle mérite le traitement qu'on lui donne ou pas? Là? Moi, de discriminer quelqu'un sur la base, qu'il soit russe ou africain du Sud en 1990, je comprends pas. À mon avis, je comprends pas là, pourquoi qu'on ferait ça.
Mais psychologiquement, comme économiquement, je comprends pourquoi est-ce qu'on a cette tension-là entre des fois vouloir juger un groupe sur la base d'un groupe ou sur la base d'un individu, parce que les individus sont tellement différents entre eux que c'est coûteux de juger sur la base uniquement des individus, ce qui voudrait que tu considères chaque personne individuellement. Mais il y a des corrélations entre des individus d'un certain groupe, donc on essaie d'économiser sur du coût de traitement d'informations en faisant ça. Ceci dit, le problème, c'est que le défaut qui vient avec ça, c'est que je comprends c'est qu'évolutionnairement, on fait ça, qu'il y a une raison pourquoi on fait ça, et de dire que comme fait social, c'est un fait, que je ne l'aime pas. J'ai pas besoin de l'aimer pour dire que c'est une réalité. Je pense que c'est une vérité sociale, que les gens font ça, mais que moralement, ça serait mieux de tout faire pour se diriger vers davantage d'évaluation sur la base individuelle que sur la base collective. Surtout parce que toute évaluation qui se fait sur la base des groupes, c'est toujours pas un pas inéluctable vers... mais c'est toujours un pas dans la direction de l'autoritarisme. Parce que l'autoritarisme a besoin de créer, tout régime autoritaire a besoin de créer un bouc émissaire, groupe de méchants, des bons, des méchants, des vilains. Il ne peut pas avoir des nuances dans ces régimes-là. Et en fait, toutes les racines autoritaires, tu peux aller même chez des philosophes de gauche comme Hannah Arendt, que chez des libéraux classiques comme Hayek. Toute dérive autoritaire vient par définition de nier l'unicité d'un individu et de favoriser un groupe, donc l'unité versus l'unicité. Donc le groupe doit être un tout conforme et que les déviants du groupe, ceux qui ne veulent pas participer à l'unité de ce groupe-là, parce qu'ils se jugent différents eux-mêmes, eux, ce sont les vilains, eux, ce sont... Et donc, il faut les punir. Je comprends qu'historiquement, il y a toujours eu cette tension-là entre unicité et unité, entre uniformité et capacité à chercher ce que tu veux dans des formes vraiment différentes. Mais la réalité, c'est que plus tu t'en vas vers unité, plus tu as des régimes autoritaires, plus tu as des régimes qui sont nocifs de la liberté humaine, et plus tu vas avoir des résultats qui vont avoir sur des longues périodes des discriminations, des persistances de résultats négatifs pour un groupe versus un autre groupe, qui peut avoir des longs ombrages de mauvaises institutions, mais ça part de l'idée qu'il y a des groupes. La nature de la société, c'est l'individu, point barre.
Oui, mais c'est drôle, pareil, que tu dises ça, puis on va passer sur Patreon après, là. Mais Hannah Arendt, à mon avis, était très proche vers la fin de sa vie de devenir ce qu'on appellerait une libertarienne, parce qu'en fait, elle a exactement la même vision du totalitarisme qu'un personnage comme Ayn Rand, parce que Elle dit dans, justement, tout ce qu'elle écrit sur le totalitarisme puis Eichmann à Jérusalem et autres, là, elle explique dedans, elle a une phrase, entre autres, où elle dit quand tu mets je la paraphrase, là, mais en gros, un nazi puis un communiste qui jasent ensemble sont surpris de s'apercevoir qu'ils sont d'accord sur tout. Et là, tu sais, Ayn Rand dit exactement la même chose, qu'en gros, c'est la même matrice collectiviste, la même vision autoritaire. C'est juste que dans un cas, tu remplaces juif par capitaliste ou bourgeois. Puis en réalité, tu as exactement le même type de discours avec la désignation du bouc émissaire, avec l'idée que le collectif est toujours plus important que l'individu, qui lui-même est un détail que tu peux sacrifier au nom du bien commun. Donc, ouais. C'est oui, effectivement, Hannah Arendt était une philosophe de gauche, mais qui, l'analyse de la réalité l'a poussée à rejeter, en fait, un peu toutes les formes de collectivisme.
Oui, puis c'est pour ça aussi que si tu vas dans les penseurs libéraux, là, parce que chez les politologues, c'est vraiment difficile. Ils ont vraiment une difficulté à définir c'est quoi le fascisme. Parce que le fascisme, son seul objectif, c'est l'acquisition du pouvoir et les justifications sont instrumentales. Right? Donc, ce qui différencie tous les fascismes entre eux, c'est comment est-ce qu'ils font ça, puis les étapes. Donc, il y a comme Robert Paxton parle de plusieurs étapes différentes, puis des va-et-vient entre ces étapes-là, mais que... En tout cas, il essaie de créer une nomenclature de ça, mais pour les libéraux, quand ils regardent c'est quoi du fascisme, ça, tu leur demandes de définir ça relativement à d'autres idéologies comme le communisme, comme les théocraties. Pour eux, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire qu'ils vont dire que la différence va être uniquement dans la forme qu'ils prennent, mais ils sont tous fondamentalement des négations de l'individu, des négations de ses libertés fondamentales, de ses droits naturels, et qu'entre eux, la différence de forme existe, mais la différence substantive pour le bien-être humain est négligeable, voire zéro. C'est pour ça que les libéraux, dans leur tête, quand tu leur demandes « Définis-moi le fascisme, dis-moi comment c'est différent du communisme »,
ouais.
La justification, mais au final, les deux, on va dire, ça fait partie des chevaux de l'apocalypse, ça fait partie des choses qui mènent à l'appauvrissement de la race humaine.
Mais c'est pour ça que moi, je trouve que l'étiquette, ben, pas l'étiquette, mais les clivages libéraux ou collectivistes ou libéral, autoritaire, c'est beaucoup plus pertinent que le cliché gauche-droite parce que en réalité, si tu prends, mettons, une carte gauche-droite, là, ben là, tu vas te retrouver, mettons, que sur la carte, là, ben là, très à droite, là, tu vas avoir je te dis pas que c'est la réalité, mais pour beaucoup de gens, là, libertariens, moi, je mets ça à droite, c'est presque, tu sais, c'est la droite radicale. Puis là, à l'autre bout complètement, tu vas avoir des personnages genre Henry David Thoreau. Mais la réalité, c'est qu'ils sont très près l'un de l'autre. Non pas parce que les extrêmes se rejoignent, mais parce que vous avez la mauvaise grille d'analyse. En réalité, c'est deux façons de penser libertaires ou libérales qui ont ça en commun, mais c'est parce que ça a été associé à deux... courant antagoniste, si on veut, ou deux étiquettes antagonistes, mais comme extrême droite, extrême gauche. Je veux dire, quand tu prends la carte idéologique, puis là, tu as les communistes, et à l'autre bout du spectre, tu as les fascistes, puis tout le monde est un peu entre les deux. Là, moi, je dis non, les fascistes, les communistes, c'est de l'autre bord, puis moi, je suis complètement l'opposé de ça. Oui,
mais tu sais, quand on parle de la ligne gauche-droite, puis ça, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais tous les groupes autoritaires, ce qu'ils veulent, c'est se ramener le plus possible de cet univers unidimensionnel parce que tu peux juste te déplacer dans une direction. Alors que quand tu es libéral, tu reconnais que l'espace dans lequel les gens se définissent ne peut pas être unidimensionnel, ça ne peut pas être une ligne. C'est même pas visualisable de manière graphique. Parce que tu peux plus rien grapher mathématiquement après trois dimensions. À quatre dimensions, tu vas dans ce qu'on appelle l'analyse du réel. Puis là, ça devient complètement intangible, difficile à imaginer que c'est quoi l'espace quand les gens ont 25 ou 300 ou 1000 dimensions sur lesquelles ils essayent de définir leur existence. Tu peux pas visualiser ça. Bien, quand tu peux pas le visualiser mathématiquement, puis que tu peux juste de manière abstraite le concevoir, l'espace complexe dans lequel on le définit, ben, tu es probablement plus un libéral qu'autre chose. Plus tu te rapproches de l'idée, si tu veux simplifier le monde et avoir ce que tu veux comme préférence, c'est mieux de tout mettre les autres dans les méchants, une partie, les bons. Puis je comprends que c'est le fun de vouloir faire ça, mais la réalité, c'est que plus tu essaies de te rapprocher, plus tu essaies de couper le nombre de dimensions dans lesquelles on existe comme être humain, dans lesquelles on se définit comme être humain, le plus tu te rapproches d'avoir les chances élevées d'un régime autoritaire qui abuse de certaines personnes parce que tu as comprimé l'univers dans lequel on évolue à un nombre de dimensions qui est pas réflectif de ce qu'on est.
Ouais.